Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Je vous raconte l'affaire Élodie Kulik. Je sais, je l'ai déjà fait, mais je dois faire une mise à jour, une sacrée mise à jour. Car Willy Bardon, qui après 17 années d'enquête, avait été condamné à 30 ans pour le meurtre de celle qu'on avait appelée la banquière de Péronne, a été libéré il y a quelques jours. Libéré dans l'attente de son procès en appel. Alors je sais que ça a choqué beaucoup d'entre vous, mais pour avoir une opinion là-dessus, pardon, mais il faut connaître l'histoire. Je vais donc vous rappeler les faits d'un bout à l'autre. Et après, je serai avec l'un des avocats de Bardon, maître Stéphane Dacot du barreau d'Amiens, qui a obtenu sa libération, et avec l'avocat du père d'Élodie, maître Didier Seban du barreau de Paris. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Une nuit d'hiver, dans la Somme, en janvier 2002. Élodie vient de passer la soirée avec un ami à Saint-Quentin, la grande ville du coin. Et maintenant, elle rentre chez elle à Péronne, en voiture, dans sa Peugeot 106 grise. Elle connaît bien la route, hein, et le paysage, les champs de betteraves et de céréales à perte de vue. Sauf que là, il fait nuit, il fait froid, en dessous de zéro, il y a du brouillard. Une nuit d'hiver, en Picardie. Elle emprunte la Nationale 29, puis, après une vingtaine de kilomètres, au rond-point de l'usine Bonduel, elle tourne à droite sur la départementale 44. Ce qui s'est passé après, eh bien on ne sait pas. Qu'elle a fait une sortie de route toute seule? Est-ce qu'elle s'est endormie? Ou est-ce que quelqu'un lui a fait une queue de poisson volontairement? Est-ce qu'on l'a poussée hors de la route? On ne saura jamais. Toujours est-il qu'à minuit 20 pile, elle appelle le 18, les pompiers. L'opératrice du centre de secours d'Amiens qui a décroché n'est pas prête d'oublier son appel. Elle était effrayée. Elle était terrifiée, elle hurlait. J'ai clairement entendu des voix, des voix d'hommes, comme des hommes qui s'approchaient d'elle. Plusieurs hommes. Je lui ai demandé, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? J'ai pas eu de réponse, autre que ces hurlements. Et ensuite, ça a coupé. J'ai essayé de la rappeler, mais ça n'a pas répondu. À 1h10, un automobiliste aperçoit dans ses phares la voiture d'Élodie dans un champ, avec le clignotant qui marche toujours. Alors il s'arrête, il descend, il s'approche de la voiture. La portière passager est ouverte, le plafonnier est allumé, les clés sont sur le contact, la radio fonctionne encore. Mais il n'y a personne, juste un sac à main de femme. Entre-temps, les gendarmes ont reçu des appels d'autres automobilistes qui ont vu la voiture dans le champ. Alors ils arrivent. Ils ne sont pas au courant de l'appel aux pompiers. Et ce qui les surprend d'entrée, c'est que ça a l'air d'un accident. Mais c'est un drôle d'accident. C'est une ligne droite. Et où est le conducteur, ou plutôt la conductrice, vu le sac à main? Bon, ça arrive. Si ça se trouve, elle avait bu. Après l'accident, elle a voulu éviter de souffler dans le ballon. Elle s'est enfuie. La plaque d'immatriculation leur donne un nom. Élodie Kulik. Les gendarmes l'appellent. Chez elle. Pas de réponse. Le lendemain matin, les gendarmes contactent la famille.
Vous non plus, vous n'avez aucune nouvelle.
Aucun contact,
d'accord. Et puis les gendarmes découvrent l'existence du coup de fil aux pompiers. Et à partir de là, bah, ça n'est plus un accident. C'est un meurtre. Ou au moins, un enlèvement. Et ils se disent que ça a peut-être à voir avec le métier d'Élodie Kulik. Elle dirige l'agence de la Banque de Picardie à Péronne. À 24 ans, elle est même la plus jeune directrice d'agence bancaire en France. Deux jours plus tard, le 12 janvier, à 6 km du lieu de l'accident, à la Tombille, une décharge agricole, un paysan tombe sur un corps de femme, allongé sur le dos, nu, les jambes pliées et relevées.
un corps brûlé sur tout un côté. Mais pas assez pour qu'on ne la reconnaisse pas. C'est Élodie.
Quand ils arrivent sur place, les gendarmes se disent « Il faut connaître pour venir planquer un corps ici. Il faut forcément être du coin. Gardez ça dans un coin de votre tête. »
Évidemment, les pompiers ont un enregistrement de l'appel téléphonique, passé par Élodie juste avant de mourir. Il dure 26 secondes. Les gendarmes l'écoutent une fois, 10 fois, 100 fois, avec ce sentiment d'assister en direct à l'agression d'Élodie. C'est rare, c'est très rare ça. On entend d'abord des cris, des hurlements, et à la fin des voix d'hommes qui s'approchent, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors on confie la bande à des experts acousticiens. Ils utilisent un outil dit de nettoyage pour enlever les bruits parasites. C'est mieux. Mais malgré tout, personne n'est d'accord sur ce qu'il entend. Certains entendent un homme qui dirait quelque chose comme « il faut la finir » et puis le mot « batterie ». Mais d'autres n'entendent pas ça du tout. Et l'un des experts entend un homme utiliser le pronom « vous », ce qui pourrait laisser penser que les hommes seraient au moins 3. Écoute là. Il y en a un qui a l'accent picard, non? Tu trouves pas? Ça, c'est l'accent du coin, ça. Il a l'air plus âgé. L'enregistrement téléphonique n'est pas le seul élément de cette enquête qui débute. Pas très loin du corps, dans la décharge, on a retrouvé un préservatif usagé et son emballage. Et une serviette éponge blanche tachée de sang et de peinture. Et un mégot de cigarette. Tout ça est pain béni pour le laboratoire. Ah, ça y est, on a les résultats de l'autopsie. Elle a été violée 2 fois. Une fois sans préservatif et une fois avec. Et c'est le même sperme, hein, et donc la même personne qui l'a violée 2 fois. Et donc, on a l'ADN du violeur. Alors on le passe au fichier, bien sûr, mais en 2002, il n'y a pas grand-chose dans ce fichier. Ça ne donne rien. Au passage, on a aussi trouvé un ADN sur la serviette éponge, mais dégradé. Et au fichier, là encore, ça ne donne rien. À part ça, elle est morte étranglée, à main nue. Les traces sur le cou sont caractéristiques. Il n'y a pas de suie dans ses poumons, donc elle était déjà morte quand on a mis le feu à son corps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie d'Élodie qui puisse mener à ces assassins? Faute de mieux, c'est par là que les gendarmes commencent. Et là, ils découvrent une famille, les Kulik, une famille marquée par la tragédie, chienne de vie, vraiment chienne de vie. Les parents d'Élodie, Jackie et Rosemary Kulik, ont d'abord eu 2 enfants, Karine et Laurent. Ils sont morts, tous les deux, dans un accident de voiture. Ils sont passés à travers le pare-brise. Et Élodie est née juste après, comme une revanche de la vie. Et la voilà à la morgue, à son tour. Est-ce qu'elle avait un amoureux, Élodie? Ben non, rien d'installé, quelques aventures, mais rien de plus. De toute façon, les gens disent que c'était une femme très indépendante. Hein. Oh ben quand elle se faisait draguer... Vous savez, les envoyer balader, hein. Sans agressivité, hein. Mais fermement. Intéressant, ça. Est-ce qu'elle aurait pu éconduire un homme le jour de son assassinat? Les gendarmes reconstituent son emploi du temps minute par minute. Le matin, elle est allée à son travail à pied. L'agence du crédit de Picardie de Péronne est tout près de chez elle. À midi, elle a déjeuné avec 2 collègues à côté de la banque, à la brasserie La Picardière.
Oh bah je crois bien qu'il y a eu quelques commentaires un peu macho, sans doute, hein, de la table d'à côté, là, c'était des ouvriers du bâtiment. Mais à mon avis, rien de grave.
Ensuite, elle a enchaîné les rendez-vous à l'agence jusqu'à 17h45, sans incident. Après, elle a pris sa voiture pour aller voir son ami Hervé à Saint-Quentin. Ils avaient rendez-vous dans un bar à tapas, le Latino.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, que mes serveurs se sont gentiment disputés pour lui servir son Coca-Cola, quoi. Genre, laisse-moi la blonde, c'est pour moi.
Bon, finalement, c'est moi qui m'en suis occupé. Ensuite, avec Hervé, ils sont allés manger dans un resto chinois. Et après, ben, on est allé chez moi, on a bu un thé, et elle est rentrée chez elle. À quelle heure? Vers minuit. Vous acceptez un prélèvement de votre ADN, monsieur? Oui, bien sûr, sans problème.
Négatif. Négatif aussi l'ADN de son dernier petit copain, et de celui d'avant, un coiffeur avec lequel la rupture s'était mal passée. Les gendarmes s'intéressent ensuite à ses clients à la banque. Et les collègues d'Élodie leur racontent une histoire bien intéressante.
Eh ben, ce soir-là, figurez-vous que quand elle est partie à la fermeture de l'agence, quoi, ben, y avait un gars qui l'attendait dehors. C'est un homme qu'elle avait connu à Réveillon. Il voulait la revoir. Je pense qu'il en pinçait pour elle, quoi.
Eh, c'est une piste, ça. Ce dragueur, les gendarmes le retrouvent.
Oh, c'est vrai que je l'ai un peu dragué, mais bon... Elle m'a éconduit, je n'ai pas insisté, hein.
Est-ce que vous acceptez qu'on pratique sur vous un test ADN, monsieur?
Oh bah ouais, ouais. Pas de problème.
Négatif.
Arrive l'été 2002. Et à ce moment-là, les gendarmes pensent avoir affaire à un tueur en série. Parce que le 9 juillet, on retrouve le corps d'une jeune femme de 19 ans, Patricia Leclerc, à moins de 30 kilomètres de l'endroit où est morte Élodie. Scénario très proche. Elle a été rouée de coups et violée. Et pour l'achever, son agresseur l'a écrasée avec une voiture. Un mois et demi plus tard, le 21 août, dans la même région, Christelle Dubuisson, 18 ans, est tuée à coups de couteau et écrasée par une camionnette. Et aucune piste. Est-ce que ça serait pas le ou les mêmes? Je vous ai parlé de la malédiction des Kulik. La maman d'Élodie, Rosemary, qui a perdu ses trois enfants, les deux premiers à travers le pare-brise, et Élodie, violée et étranglée, est au bout du rouleau. Elle est au fond du fond de la dépression. Alors elle avale un flacon de mort au rat et elle tombe dans le coma. Elle va y rester 9 ans. 9 ans. Et pendant 9 ans, son mari, Jackie, va lui rendre visite tous les jours en réanimation. Et tous les jours, à voix basse, il va lui raconter l'avancée de l'enquête, elle qui sans doute n'entend pas, mais qui peut-être perçoit l'énergie de son mari qui se bat, qui ne lâche rien.
Nous sommes en ligne avec Jackie Kulik. Vous êtes le père d'Élodie, assassiné en janvier. Monsieur, c'était important pour vous d'être reçu par le ministre de l'Intérieur?
Oui, pour moi, c'était très important d'être reçu par Nicolas Sarkozy. Je me doute bien qu'il suive l'actualité et que, bon, ces trois horribles crimes dans un même périmètre ne pouvaient pas laisser les représentants de l'État indifférents. Je voulais, en contrepartie, avoir des garanties quant à l'enquête et quant au personnel qui était affecté autour de ces trois enquêtes.
Finalement, il n'y a pas de lien entre le meurtre d'Élodie et les affaires du mois de juillet et du mois d'août. On a retrouvé l'assassin des deux filles. Il s'appelle Jean-Paul Lecomte. Il sera jugé pour ces deux affaires et condamné. Et pour Élodie, il a un alibi en béton parce que quand elle est morte, il était en prison. Le soir et la nuit du meurtre d'Élodie, 14 000 téléphones portables ont accroché le relais téléphonique proche des lieux du drame. Ça fait du boulot, ça. Et ça ne donne rien. Les gendarmes finissent par installer des barrages la nuit autour de l'usine Bonduelle.
Bonsoir, monsieur. Gendarmerie nationale. Nous cherchons des témoignages sur la nuit du 10 janvier dernier. Vers 1h du matin, c'est le soir où Élodie Kulik a été tuée. Bah, moi, je suis pas passé par ici le 10. Mais quand j'ai vu dans le journal ce qui s'était passé, bah, la veille, bah donc le 9, quoi, bah, j'ai vu une femme, ici, hein, dans le coin, se faire importuner par une voiture derrière. Vous devriez vous renseigner. Ça se fait beaucoup dans le coin.
Les gendarmes interpellent quelques fous du volant,
leur ADN ne correspond pas. Et les années s'écoulent, pour Jackie Kulik, des années de chagrin ininterrompu. Et tous les jours, il va voir Rosemary à l'hôpital pour lui raconter cette enquête qui n'avance pas. Et ça dure comme ça jusqu'en 2011. Et en 2011, Rosemary s'éteint. Pauvre femme, elle s'éteint sans jamais avoir repris connaissance. Et donc elle n'est pas là, le 8 janvier 2012, quand on commémore les 10 ans de la disparition d'Élodie. Et elle n'est pas là non plus quand 8 jours après, le 16, le juge d'instruction appelle Jackie pour lui annoncer la nouvelle qu'il attendait depuis tant d'années. On a identifié l'agresseur d'Élodie. C'est un miracle que l'on doit à un gendarme, un capitaine, qui rentre tout juste d'un stage à Quantico, l'académie du FBI aux États-Unis. Et là-bas, il a découvert une nouvelle technique pour exploiter l'ADN. Quand dans une enquête, on a une empreinte génétique qui ne donne rien quand on la passe au fichier. Ça s'appelle la technique des parentèles. C'est une idée de génie. Au lieu de passer au fichier un ADN complet, un ADN qu'on appelle nucléaire, qui est la carte d'identité de chaque individu, on soumet au fichier un ADN partiel, qui, lui, caractérise tous les membres d'une même famille. Ça multiplie les chances. Si vous n'avez pas le tueur dans le fichier, vous avez peut-être son père, ou sa mère, ou son frère, ou son grand-père. Les gendarmes de la Somme ont donc appliqué cette technique à l'affaire Élodie Kulik. Ils ont fait passer au fichier les ADN dont ils disposent en mode partiel. Et bingo! Ça a marché! Ils ont trouvé dans le fichier quelqu'un qui est de la même famille que le violeur-tueur d'Élodie. Cet homme est en prison pour une agression sexuelle sur un mineur. Mais il a un fils. Et ce fils s'appelle Grégory Viard. Mais le drame, c'est que ce Grégory Viard est mort. On ne peut pas le mettre en examen, il est au cimetière. Il est mort en 2003 dans un accident de la route. On a exhumé son corps au cimetière pour prélever son ADN. C'est bien lui, aucun doute. Le seul espoir maintenant, c'est d'identifier parmi ses amis des complices. Il faut fouiller dans la vie de ce Grégory Viard et identifier ses amis de l'époque. En janvier 2002, quand il a agressé Élodie, il avait 23 ans. Il était plombier chauffagiste dans un petit village proche de Péronne, Montessour-Lizerolles. Il avait repris l'entreprise de son père quand l'autre était parti en prison. Les gendarmes font le tour du village.
Grégory Viard, oh attention, hein. C'est quelqu'un qui bossait bien, hein. Ouais, mais c'est un sacré loustique, hein. Oh, il était roubleur. Il était magouilleur.
Grégory Viard fréquentait assidûment deux bistrots du village.
Grégory ? Oh bah quand il avait vu. Il était pas commode, hein. Allez voir son ex-femme. Elle vous en parlera.
Il la battait. Et à part ça, Grégory Viard faisait aussi partie d'un club de 4x4. Et il faisait aussi de la moto.
Oh bah c'était un super bon pilote, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas compris son accident, hein, en 2003. Dans une ligne droite, en plein jour. Et il s'est encastré dans un camion de betteraves qui arrivait dans l'autre sens. Mort sur le coup. Un pilote comme lui, on n'a pas compris. Hein.
Et les copains, ses copains. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Il avait une bande de copains, amateurs comme lui, de bagnoles et de motos. Avec eux, il faisait des virées entre potes, le plus souvent à Saint-Quentin. Renseignement pris dans la bande, c'était pas lui le leader.
Oh, Grégory, c'était pas un meneur du tout, hein. Il traînait avec des types plus âgés, les têtes brûlées.
Et d'ailleurs, en menant leur enquête, les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a eu beaucoup de morts dans l'entourage de Grégory Viard et de sa bande. 3 morts la même année, 2005. Julien, 20 ans, carbonisé dans une voiture de location. Eric, retrouvé mort dans un canal, sans eau dans les poumons, mais avec des traces de coups et le foie éclaté. Et Nelson, 17 ans, retrouvé mort dans un canal lui aussi, sans eau dans les poumons, et avec des traces de coups. Ça vous donne une idée de la bande. Tout, sauf des enfants de cœur. Les gendarmes font un travail titanesque. Ils identifient 61 personnes dans l'entourage de Grégory Via. Ils les profilent, ils les placent pour certains sur écoute. Et le 16 janvier 2012, à 6h du matin, ils en interpellent 7.
7 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin. Guillaume Bié, quel est le profil de ces 7 suspects ?
Et ils les placent en garde à vue. Et pour provoquer un électrochoc, ils leur font écouter chacun à leur tour l'enregistrement de l'appel d'Élodie aux pompiers, 10 ans plus tôt. Alors vous écoutez, hein ? Et vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un. Cette voix là, la voix avec l'accent picard là, ça me dit quelque chose, ça. C'est Willy ça, non? Willy? William Bardon, quoi. Sur les 7 interpellés, 5 disent c'est Willy. Et Willy fait partie à ce moment-là des gardés à vue. Et à lui aussi on fait écouter la bande. J'y crois pas. On dirait que c'est moi, ça. Et puis, il comprend le piège. Non, ça ressemble. Mais c'est pour moi. Ce William Bardon, dit Willy, était le grand copain de Grégory Viard. C'est un costaud, au tempérament un peu vif, mais sans casier judiciaire. Il tient un bistrot, le Will Bar, dans un petit village. Et donc, à l'issue de sa garde à vue, Willy Bardon est déféré chez le juge. Et 10 ans après, il est mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre. Et il file en prison. Parmi les gens qui ont reconnu Willy Bardon à sa voix, il y en a un qui est très convaincant. Il s'appelle Romuald, c'est le neveu de Willy. En garde à vue, quand on lui a fait écouter la bande, il a dit
« Je pense que c'est Willy, ça. À 98% c'est Willy. »
Le juge décide de le confronter à Willy Bardon.
Bah, j'ai écouté la bande 3 fois. Je t'ai reconnu, Willy. Bah, c'est toi. Mais Romu, enfin, c'est pas moi, je te le jure. Bah, c'est ta voix, pourtant. On dirait ma voix, d'accord, mais c'est pas moi.
L'instruction ne trouvera aucune autre preuve contre Willy Bardon. Rien d'autre que le fait que lui-même, avant de faire marche arrière, et plusieurs de ses amis, l'ont reconnu dans l'enregistrement. C'est limite pour envoyer quelqu'un devant une cour d'assises. Et d'ailleurs, pendant quelque temps, le juge tergiverse. Et les avocats de Willy Bardon en profitent. Ils obtiennent en avril 2014 qu'il sorte de prison après 13 mois. D'abord avec un bracelet électronique, et puis au bout de 2 ans, sans rien du tout. Juste un contrôle judiciaire. Un temps, on pense avoir identifié un troisième homme. Et puis finalement, non. Mais le juge a décidé d'aller jusqu'au bout. William Bardon est renvoyé devant la cour d'assises. Et on verra bien si les jurés trouveront matière à le condamner. Le procès de William Bardon s'ouvre le jeudi 21 novembre 2019 devant la cour d'assises d'Amiens. Il comparaît libre. Il n'est pas dans le box, donc, mais sur le banc, aux côtés de ses avocats. Le premier jour, comme souvent, on tente de cerner la personnalité de l'accusé. Son ex-compagne, Christelle, vient à la barre.
C'est vrai qu'au fil des années, il a sombré dans l'alcool, quoi. Mais c'était un bon père, hein. Il n'a jamais été méchant avec nous.
Et là, Maître Seban, l'un des avocats de la famille Kulik, intervient.
Vous voulez dire qu'il ne s'est jamais pris à vous, madame?
Bah si. Moi, je reconnais, quoi, j'étais soumise. Mais il m'insultait, oui, quand il avait bu.
Vous avez des exemples, peut-être, d'insultes, madame?
Ouais, il m'appelait grosse vache, quoi. Il me disait, tu sais rien foutre, ton métier c'est de la merde, tu rapportes pas assez.
Le cinquième jour, le président de la cour d'assises fait diffuser l'enregistrement. Il le fait diffuser 10 fois de suite, pas par haut-parleur, mais par casque, pour tenter de pallier la mauvaise qualité. 26 secondes d'horreur. Sur leur banc, les proches d'Élodie se bouchent les oreilles. Une fois de plus, personne n'entend la même chose. Et l'expert de la gendarmerie met tout le monde en garde.
C'est normal. Si vous l'écoutez plusieurs fois, vous n'entendrez pas la même chose, hein.
à la 10e écoute ou à la 30e.
Et là, la défense de Willy Bardon fait citer comme témoin un universitaire.
Je dirais que les expertises réalisées à l'oreille ne relèvent d'aucun domaine de la science. Dans de telles conditions d'écoute, pour moi, la fiabilité est proche de zéro.
Romuald, le neveu de Willy Bardon, qui en garde à vue a reconnu la voix de son oncle à 98%, est appelé à la barre. C'est le témoin clé. Une grande partie de l'accusation pèse sur sa certitude.
Bah, j'ai dit que je reconnaissais sa voix. Mais en fait, avec le recul, on peut se tromper, hein. Ouais, en fait, je la reconnais pas, quoi. C'est le gendarme, quoi. Ils m'ont orienté. Je n'ai pas l'impression, monsieur, que on vous ait forcé à reconnaître cette voix. Bah si. Les gendarmes, ils m'ont dit tellement de choses sur lui.
Romuald a changé d'avis. Mais pas les autres. Au total, 6 témoins viennent confirmer à la barre qu'ils ont reconnu et qu'ils reconnaissent toujours la voix de Willy Bardon. Et lui, il avait reconnu sa propre voix en garde à vue.
Mais à force qu'on vous dise c'est votre voix, c'est votre voix. Bon, bah, ça m'a mis tellement la pression. Bah, j'ai fini par dire qu'il y avait un timbre qui me ressemblait, quoi, c'est tout.
Corinne Herman, l'avocate du père Jacky Kulik, partie civile, se lève pour plaider.
Élodie est morte figée dans un viol. Un viol d'une telle sauvagerie que son sexe en était déchiré. Élodie, dont le corps a été abandonné près d'un tas de fumier. Souvenez-vous-en, elle avait le visage brûlé, noirci comme du charbon. Elle qui était si belle, elle n'avait plus de cheveux. Willy Bardon nous dit « J'aime les femmes ». Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Bardon. Vous aimez la jouissance qu'elle vous apporte, oui? Vous aimez le sexe jusqu'à l'ultime? Vous aimez les gangbangs? Vous aimez les prostituées? Oui. Vous dites aimer les femmes. Mais vous êtes une injure aux femmes.
L'avocate générale plaide ensuite.
Il n'est absolument pas rare de condamner sans preuve scientifique, mais uniquement sur la base de témoignages humains. Ce qui compte, c'est votre intime conviction. Je vous demande un minimum de 30 ans de réclusion criminelle pour Monsieur Bardon, avec une période de sûreté des 2/3.
3 avocats se succèdent ensuite pour défendre Willy Bardon.
Ce dossier est un château de sable. Les expertises de reconnaissance vocale sont une fumisterie. L'ADN serait une preuve formelle de la culpabilité de Willy Bardon, mais il n'y a nulle part, l'ADN de Willy Bardon. Nulle part. Dans ce dossier, écoutez-moi bien. On a voulu trouver coûte que coûte un coupable vivant, quitte à en fabriquer un.
Willy Bardon a le dernier mot.
Monsieur Kulik, je suis innocent. Je vous le jure. J'y étais pas.
Les jurés ont suivi l'avocate générale. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Jacky Kulik se lève, il est en larmes. Et à ce moment-là, Willy Bardon sort quelque chose de sa poche droite. Et il l'avale. Et de l'autre main, il avale par-dessus une bouteille entière d'eau. On met un peu de temps à comprendre qu'il est en train de tenter de se suicider. On le sort, on l'amène d'urgence à l'hôpital, pronostic vital engagé. Il a avalé un pesticide. Mais il va s'en sortir juste à temps pour faire appel.
Et en attendant son deuxième procès, il file en prison. Et depuis sa prison, il continue de dire « Je suis innocent ». C'est pas moi, il y a erreur.
Et dans l'attente du procès en appel, ses avocats déposent une première demande de remise en liberté. Refusée. Une deuxième demande de remise en liberté. Refusée. Mais ils ont des arguments. Et le premier est que tout accusé qui a fait appel est présumé innocent. C'est la loi, c'est rarement appliqué, mais c'est la loi. Et leur deuxième argument, c'est qu'il était libre avant son premier procès et qu'il s'est présenté à l'audience. Donc il n'y a pas de risque. Ses avocats déposent alors une troisième demande de remise en liberté. Acceptée. Et fin septembre 2020, Willy Bardon sort de prison et il accorde une interview à France 2 pour dire qu'il est innocent.
Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que j'ai rien à voir là-dedans. Tout le monde me voit pour quelqu'un qui aurait violé. J'ai jamais violé personne. On me voit pour quelqu'un qui aurait tué quelqu'un. J'ai jamais agressé personne pour dire même une bagarre, c'est pas du tout moi.
Son procès en appel devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2021. Et on verra à ce moment-là s'il mérite la confiance que les juges qui l'ont laissé sortir lui ont accordé. Voilà donc pour cette histoire avec sa dernière mise à jour. Alors je sais que la libération de Willy Bardon a pu choquer certains d'entre vous qui ne l'ont pas comprise. Et donc tout naturellement, je me tourne vers l'un des avocats qui a obtenu cette libération, avocat de Willy Bardon, maître Stéphane Dacco du barreau d'Amiens. Et là, bonjour maître.
Bonjour monsieur Andelin.
Vous me concéderez, maître Dacco, qu'il est assez rare tout de même qu'un condamné pour meurtre soit libéré dans l'attente de son procès en appel. Ça arrive parfois pour des histoires de délai trop long entre le procès initial et le procès en appel, mais assez rarement dans les mois qui suivent la condamnation. C'est pas une première, mais presque.
Oui, c'est relativement rare. Ceci dit, M. Bardon était libre avant son procès en première instance et il était présent à chaque audience, donc la Cour a considéré que la confiance qui lui avait été accordée, qu'il avait respectée, pouvait être à nouveau accordée.
C'était votre meilleur argument, ça ?
C'était notre meilleur argument, avec purement et simplement l'application de la loi, puisque, encore une fois, hein, toute personne est présumée innocente avant qu'elle soit jugée et condamnée définitivement, et la détention provisoire, comme son nom l'indique, hein, puisque c'est une détention avant condamnation, ne doit rester provisoire que le temps nécessaire pour le bon déroulement de l'information.
Vous avez tout à fait raison. C'est l'esprit absolu de la loi. Mais il n'est jamais appliqué.
Il est rarement appliqué, et vous avez raison. Les magistrats qui ont rendu cette décision ont premièrement rendu une décision scrupuleuse en droit et qu'on peut qualifier de courageuse.
D'ailleurs, pour information un peu technique, qui est-ce qui prend cette décision ?
C'est la Chambre de l'instruction. Alors, c'est la chambre de l'instruction parce qu'on est entre les deux procès.
C'est la même chambre de l'instruction qui a décidé qu'il devait comparaître devant la cour d'assises.
C'est pas la même chambre de l'instruction pour une raison bien simple, c'est que c'est la chambre de l'instruction d'Amiens qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises. Et là, dans la mesure où il était détenu dans le ressort de la chambre de l'instruction de Douai, c'est cette dernière qui a rendu la décision.
Alors, évidemment, ce qu'on est tenté de penser, et que peut-être vous êtes tenté de penser, c'est que derrière cette décision, il y a l'hypothèse d'une erreur judiciaire. Puisqu'on sait qu'un détenu condamné et acquitté, qui a fait de la prison, on doit l'indemniser. Donc, est-ce que dans votre idée, la chambre de l'instruction dit « Oulala, pour pas avoir à lui verser trop d'argent, on le laisse sortir avant son procès en appel ?»
Je n'ose imaginer un seul instant que ce soit quelque chose qui guide les magistrats. On a un dossier extrêmement difficile, un dossier avec pas ou peu de preuves, c'est en tous les cas la position que nous défendons, puisqu'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'éléments matériels qui permettraient de mettre en cause M. Bardon.
Il n'y a que des gens qui reconnaissent sa voix.
Oui, avec des experts qui nous disent on peut pas reconnaître une voix, voilà. Alors je sais que certains issus du café du commerce disent si, moi je reconnais tout à fait la voix de mon voisin. Je pense qu'on a tous été bernés au moins une fois dans notre vie par quelqu'un au téléphone dont on pensait que c'était quelqu'un qu'on connaissait et on s'est trompé. Voilà.
Donc pour vous, il n'y a pas la chambre de l'instruction, quand elle le laisse sortir dans l'attente de son procès en appel, ne va pas une seule seconde au fond du dossier.
Alors écoutez, très franchement, je pense que si jamais il y avait les éléments qui permettraient d'accabler Monsieur Bardon, il est évident qu'il n'aurait pas été remis en liberté. C'est très rare, comme vous l'avez dit en préambule, qu'une personne condamnée, même dans l'attente de son appel, fasse l'objet d'une remise en liberté. Et généralement, quand on est remis en liberté, c'est que c'est vrai qu'il y a une vraie question aussi sur le fond du dossier.
Donc pour vous, d'une certaine manière, la Chambre de l'instruction s'exprime un peu sur le fond en disant « ça tient à tellement peu ce verdict qu'on peut raisonnablement le laisser sortir ».
C'est le sentiment qui est mien.
Est-ce que vous êtes certain, Maître Dacco, que Willy Bardon sera présent à son procès en appel ?
Écoutez, je suis à ses côtés depuis le premier jour de sa garde à vue. J'étais à l'ensemble de ses interrogatoires. J'étais à l'ensemble de ses interrogatoires devant le juge d'instruction quand il était libre. Et j'étais tous les jours à ses côtés lorsqu'il a comparu devant la cour d'assises. Je vous laisse imaginer à quel point c'était une charge émotionnelle et un poids immense que de comparaître alors que vous savez que vous risquez la perpétuité.
Mais vous savez qu'il avait sur lui une fiole de pesticides, parce que il y a deux risques, il y a qui se carapate à l'autre bout de la planète et puis qui se suicide. Et alors, il a déjà tenté de se suicider.
Tout à fait, il l'a fait, il a expliqué pourquoi. Très clairement, il ne supporte pas la prison parce qu'il se dit innocent. Vous vous doutez bien que je ne savais pas qu'il avait ça dans sa poche, sinon je l'aurais bien évidemment, non pas dénoncé, mais j'aurais alerté les surveillants pour qu'ils soient particulièrement vigilants. Une dernière observation sur le fait qu'il va être présent ou pas. Je rappelle quand même que Willy Bardon, lorsqu'il est appelé par les gendarmes viennent chez lui pour perquisitionner et l'arrêter. Il n'est pas chez lui, il est à une centaine de kilomètres de chez lui. On lui passe un coup de téléphone. « Monsieur, c'est la brigade de gendarmerie, on veut vous entendre. » Vous savez, il avait déjà été entendu, il avait été déjà à cette tournée autour de lui, donc il savait très bien qu'on venait le chercher pour ça. Il fait demi-tour avec son véhicule, il fait les 100 kilomètres et il se présente devant les enquêteurs, de même qu'il a demandé à plusieurs reprises, tout au long de l'instruction, tout au long de l'enquête, qu'on prenne son ADN, alors que on sait qu'il y a énormément d'ADN sur place et on sait que Grégory Via est identifié grâce à son ADN.
Je vous remercie beaucoup, Maître Dacco. Et naturellement, maintenant, je me tourne vers l'avocat de Jackie Kulik, le père d'Élodie, un ténor du barreau de Paris, Maître Didier Seban. Bonjour, Maître Seban.
Bonjour.
Je connais un peu Jackie Kulik, que j'ai déjà interrogé ici. Je suppose qu'il a pris cette libération comme un coup de couteau.
Oui, effectivement. Mais vous savez, Willy Bardon avait déjà été libéré
pendant l'instruction.
L'enquête était pendant l'instruction. Donc, au fond, c'est peut-être un deuxième coup de couteau, mais il est vaillant, il est combatif et il pense que la cour d'assises d'appel confirmera le verdict de première instance.
C'est-à-dire que vous ne venez pas me dire ici, c'est un scandale, cette
libération. Écoutez, moi, je ne crie jamais qu'une libération est un scandale, ça n'est pas le rôle de l'avocat de la partie civile. Je dis juste que on prend des risques forts puisque Willy Bardon a pendant l'instruction fait pression sur des témoins, ils l'ont dit, les a menacés, les a insultés. On prend un risque. La cour d'appel a pris un risque terrible de voir un certain nombre de témoignages ou d'éléments qui ont été réunis difficilement par les gendarmes parce que c'est un peu la loi du silence, venir être abandonné parce que Willy Bardon ne supporte pas qu'on vienne dire qu'il est l'auteur de ce crime. Alors il dit ça parce qu'il se pense innocent. En tout cas, il soutient qu'il l'est. Nous disons, nous, que les éléments à charge sont largement suffisants pour qu'il soit condamné.
C'est-à-dire que vous et Jackie Kulik, vous êtes convaincus à 100% de la culpabilité de Bardon.
Bien sûr, mais vous savez, on n'est pas les seuls. Il y a trois magistrats, trois juges d'instruction qui ont décidé de le renvoyer devant la cour d'assises, trois magistrats de la cour d'appel qui ont décidé de le renvoyer devant la cour d'assises, une cour d'assises complète qui, après 15 jours de débat, a considéré que les charges étaient suffisantes pour le condamner à 30 ans de réclusion criminelle. Donc ça n'est quand même pas, l'opinion de M. Kulik ou de ses avocats. C'est celle des juges qui ont été amenés à examiner ce dossier. En tout cas, les juges d'instruction et les chambres d'instruction ont considéré qu'il y avait des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises et la cour d'assises pour le condamner à 30 ans de réclusion criminelle sur réquisition de deux avocats généraux. Donc on est à plus de 10 magistrats qui sont penchés sur le dossier et qui considèrent que il y a des charges très lourdes contre Willy Bardon. Du côté de la défense, on nous dit il n'y a rien, c'est le vide. Écoutez, nous verrons ce que pensera la cour d'assises d'appel, mais nous sommes convaincus qu'elle confirmera la décision de première instance.
Parce que Maître Daco, l'un des avocats de Willy Bardon avec lequel je parlais à l'instant, dit que lui, évidemment, il pense que plane le spectre de l'erreur judiciaire, c'est-à-dire que la chambre de l'instruction qui prend la décision de le laisser sortir, dit aussi ça tient à tellement peu de choses, sa condamnation, qu'on prend pas de risque.
Elle dit pas du tout ça, la
non, mais dans l'esprit.
Oui, écoutez, moi je peux pas me mettre dans l'esprit des juges qui ont décidé de le libérer. Ils ont peut-être considéré qu'il avait été libéré une première fois et qu'il s'est présenté devant la cour d'assises.
Oui.
Donc le risque qu'il ne se présente pas était faible, puisqu'il a montré qu'effectivement il venait devant la justice. Moi j'ai constaté malgré tout qu'il avait tenté de se suicider à l'occasion du verdict et qu'on n'était pas passé loin du fait qu'il y arrive et que c'est prendre un risque aussi de le libérer, qu'on ne sache jamais complètement la vérité sur cette affaire. Mais bon, la cour d'appel a décidé autrement. L'essentiel, c'est que la juridiction de jugement en juin dira le droit, dira s'il est coupable ou s'il est innocent. Nous irons en considérant que les charges le concernant, sa personnalité, les éléments qui ont été débattus devant la première cour d'assises et qui l'ont convaincu, vont amener la cour d'assises d'appel à confirmer cette décision.
Vous savez ce qui est intéressant de parler avec vous, Seban, je pensais vous coincer, mais en fait j'étais naïf, c'est que vous grimpez pas au rideau parce qu'en vérité vous êtes aussi un avocat de la défense, souvent, et que donc vous déposez, vous aussi, des demandes de remise en liberté. C'est-à-dire que vous savez que ce qui est appliqué par la Chambre de l'instruction, ça n'est que l'esprit très littéral de la loi, quasiment jamais appliqué.
Effectivement, normalement, si quelqu'un offre des garanties de représentation, qu'il n'y a pas de risque de pression sur les témoins, que la Chambre de l'instruction doit normalement libérer, c'est ce qu'elle a fait dans Willy Bardon, même si je pense qu'il y avait des risques de pression sur les témoins, mais écoutez, elle l'a fait. Nous irons devant la cour d'assises d'appel, il crie son innocence, c'est son droit le plus strict, ça ne me choque pas, rien ne me choque là-dedans, ce qui me choque c'est évidemment qu'on a mis tant d'années à le juger et tant d'années à donner une vérité à Jackie Kulik, maintenant la défense a décidé de contester cette vérité judiciaire, c'est son droit le plus strict.
Je vous remercie beaucoup, Maître Seban.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.